Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. Aujourd'hui, le Fil du Fer est enregistré dans les murs de l'Opéra et Orchestre National de Montpellier à l'Opéra Comédie. Cette émission est celle de Torao Suzuki. Bonjour Torao.
Bonjour Lionel.
Pourriez-vous nous présenter qui vous êtes à nos auditeurs et auditrices, s'il vous plaît?
Alors, je suis régisseur général Opéra, l'Opéra Orchestre National de Montpellier, et avant, ex-danseur.
Quelle est l'histoire du jeune Torao Suzuki, vous qui êtes français d'origine japonaise, né dans la ville de Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, et qui avait vécu d'enfant à jeune adulte à Tokyo?
Eh oui, bon, à Châtenay-Malabry, j'étais que jusqu'à l'âge de 11 mois. Après, on s'est transféré toute la famille à Tokyo. Et toute l'enfance jusqu'à l'âge de 17 ans. Et donc j'étais en lycée un peu particulier, lycée franco-japonaise, donc bien sûr avec des professeurs français, mais aussi différents pays aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves aussi qui étaient dans le pays francophone. Donc j'avais des Gabon, Zaïrois, Philippins, enfin, toutes les personnes qui étaient là, des familles qui étaient pour 3 ans en général, pour leurs enfants. Ils étaient que 3 ans ici, à Tokyo. C'était, donc il y avait tout le temps des changements, parce que c'était des parents qui travaillaient pour sociétés de banque ou différentes sociétés en Asie. Et ils avaient seulement, en général, 3 ans, maximum 5 ans de place pour travailler là-bas, et que les gens, après, ils partaient. Donc, j'avais que des amis qui changeaient à chaque 3-4 ans, mais c'était intéressant.
Est-ce que vos parents sont tous les deux japonais?
Alors, mon père est japonais, du sud du Japon, et Oita, c'est côté Kyushu, l'île en bas. Et ma mère, elle est de Rouen, elle est française, et voilà, ça c'est de l'origine.
Dans votre vie, de quels événements, au singulier ou au pluriel, commenceriez-vous à parler pour présenter votre parcours professionnel?
Alors, mon parcours professionnel, c'était que les études, pour moi, c'était un peu difficile de suivre, parce que j'avais tout le temps la bougeotte, je devais vraiment m'activer physiquement, et donc j'avais à l'époque un professeur de handball, qui était dans le national, l'équipe japonaise, et c'était lui l'éducation physique. Ouais. Et donc, il m'a vraiment initié au handball. Puis après, il est parti, il n'est pas resté longtemps, parce qu'après, il fallait continuer ses tournois et tout ça. Donc, on a eu d'autres professeurs, mais de là, j'ai dû m'adapter et faire autre chose. J'aimais bien patiner, donc je faisais aussi un petit peu de hockey sur glace. C'était assez violent. Et à un moment donné, je lui dis non, mais quand même, on voit pas mal de gens défigurés avec les coups de raquettes. Et donc, j'ai dit non, ça, c'est pas tellement génial. Et de là, à un moment donné, il y avait un professeur. Alors, elle est française d'origine, mais elle parlait vraiment incroyablement bien le japonais. Elle était le professeur japonais. Et sa sœur était danseuse aussi, et à l'époque. Et on m'a dit, pourquoi pas d'aller danser, quoi, d'apprendre ça. Et il y avait Béjart, un bouquin de Béjart qui m'a donné comme cadeau à un moment donné. Et c'est là que j'ai dit, c'est incroyable ça. C'est des photos qui étaient incroyables, les ballets du XXe siècle. Et je suis allé voir différentes écoles, dont un où il y avait un soliste, lui il était de Zurich, japonais. 1m80, c'est rare à l'époque. Et quand je voyais ça, je disais, c'est majestueux, quoi, ce qu'il faisait, quoi. Et c'était seulement des cours en plus, mais bon, ça m'a intrigué. De là, j'ai commencé à prendre des cours de danse. Avant, j'avais pris aussi des cours de claquettes et tout ça. Bien sûr, petit, j'avais fait aussi des arts martiaux, mais bon, ça c'est pour ça que j'ai toujours la bougeotte à faire.
Et pourquoi est-ce que la danse japonaise classique ne vous a pas attiré et que c'était la danse occidentale?
Alors, il y a la danse, vraiment, c'est le côté... Il n'y a pas de danse propre, sauf pour les femmes qui sont dans le... Ce sont des danses vraiment traditionnelles, mais ça ne m'a jamais attiré. C'est plutôt quand c'est des choses qui bougent physiquement assez violent aussi parfois. Et c'est ça qui m'a un peu attiré. Donc, le côté japonais, non, il n'y a pas de choses qui me... Bien sûr, j'étais vraiment allé voir tout le temps des spectacles de no, de kabuki, de bunraku, toutes ces choses-là. Mais voilà. Mais il y avait aussi à Tokyo la comédie française qui venait. À l'époque, il y avait Jean-Louis Barrault et tout ça qu'on clique, et c'était incroyable. Et il y avait aussi le Commedia dell'arte qui venait aussi. À Tokyo, il y avait de tout, quoi. Donc c'était incroyable.
Pour vous, que signifie danser et chorégraphier ?
Danser. Alors, danser, ce qui est important, c'est de danser. Il faut sentir aussi. C'est physique, il faut sentir. Et après, c'est le public qui voit, qui interprète comme ils veulent. Mais c'est surtout, si on n'est pas en harmonie avec le temps, l'espace et la personne ou plusieurs personnes, c'est ça qui est important. Et quand ça marche, c'est, voilà, on ne peut pas décrire, c'est le top.
C'est une jubilation.
Jubilation, ou c'est une perfection, une... finalement, on sent que voilà, là, c'est parfait. Mais c'est rare que ça arrive aussi, parce que souvent, il y a des problèmes qui se passent, et donc, voilà.
Et en ce qui concerne la chorégraphie, puisque là, on est dans des ordres, peut-être.
Alors, chorégraphie, c'est... Voilà, ça, c'est comme dans le théâtre ou dans l'opéra, il y a le metteur en scène, il y a le chorégraphe aussi... Il dicte ce qu'il faut faire et tout ce qu'on doit faire, comment bouger, quel temps et tout ça. Et parfois, j'avais du mal à accepter, mais bon, il fallait faire. Donc, quand c'est par contre des chorégraphes qui sont en harmonie avec la musique, c'est incroyable.
Choisir de devenir danseur et chorégraphe dans un univers professionnel très exigeant et concurrentiel, ce n'est pas rien, non, se lancer dans...
C'est, oui, là, déjà, quand on prend des cours, déjà, il faut se placer bien dans... Même au bar, il fallait se placer bien, et puis après, au centre et tout ça. Donc, il y a toujours la concurrence. Les professeurs qui voient mieux, qui voient moins, parce que tu es en retrait ou pas... En général, il voit tout, hein, le professeur, mais bon, même chose que pour les chorégraphes. Et c'est une discipline. C'est une discipline qui est éphémère aussi, très éphémère.
Chorégraphier, n'est-ce pas donner une architecture à la musique ? Pourquoi est-ce que je parle d'architecture ? Parce que vous m'avez dit que vos parents viennent de l'architecture.
Oui, en effet, mon père, Ren Suzuki, c'est un architecte. Il avait étudié à un moment donné à Paris. Il voulait aller, comme on disait à l'époque, le terme de gratter dans le studio d'un cabinet d'architecture avec l'équipe de Corbusier. Mais bon, il n'a pas voulu. Mais il a eu un des élèves, c'était Candilis. Puis après, il a côtoyé aussi la... je ne me rappelle plus le nom. Ça,
pas de souci, on peut avoir des oublis. J'en ai plein.
Mais voilà, donc quand j'ai commencé à faire la chorégraphie, bien sûr, étant un peu traditionnel au Japon, mon père il disait la danse, c'est pour, comme tout le monde dit, c'est pour les femmes, bizarrement, on disait comme ça, et c'est pas pour les hommes. À l'époque encore, c'était comme ça. Mais comme j'étais le quatrième fils, je suis le quatrième fils, et donc après, premier, il est devenu architecte, les autres aussi, côté domaine artistique aussi. Mais à la fin, donc, la danse, il a dit, bon, allez, l'a laissé tomber. Il n'a pas insisté. Mais quand il était venu voir le spectacle que j'avais chorégraphié, moi, après un accident que j'ai eu, que j'ai arrêté de danser, il a vu ce spectacle et il m'a dit, voilà, c'est un peu... Parce que j'avais même conçu le décor et tout pour mobile, avec la chorégraphie et la mise en scène qu'il y avait aussi. Et il a dit que quand même, c'est comme l'architecte qui doit fonder un monument qui est artistique aussi.
Formidable d'avoir ceci de la part de son père. Quelle a été votre formation comme danseur, chorégraphe, puis maître de ballet? Alors maître de ballet, pour moi aussi, c'est un mystère, parce que je ne sais pas la différence entre chorégraphe et maître de ballet.
Alors, maître de ballet, c'est, en général, c'est, on peut dire, il y a aussi le terme répétiteur aussi, c'est pour quand il y a à remplacer, reprendre la chorégraphie, c'est le maître de ballet qui reprend aussi parfois, ou assistant chorégraphe aussi. Mais maître de ballet, c'est surtout pour donner des cours. Chaque matin, les danseurs, ils font au moins une heure de cours, puis de là, on peut commencer la répétition ou bien la représentation. Donc ça, c'est le maître de ballet. Mais c'est un métier très ingrat, parce qu'en général, je crois que même d'autres disciplines, même les chœurs ou bien les musiciens, à la fin, ils ne supportent pas le chef ou bien... voilà. Et c'est la même chose que le maître de ballet, c'est un peu le chef, parce qu'après, il dit toutes les corrections qu'il y a à faire et puis les gens ne supportent pas non plus. Ça, c'est un peu le caractère des gens qui n'aiment pas tellement être critiqués. Mais bon, ça, c'est, il faut quand même, il faut être objectif d'améliorer à chaque fois. Mais c'est un métier qui est difficile aussi, le maître de ballet.
Donc vous dites améliorer à chaque fois, Torao Suzuki. Donc ça veut dire qu'on est en formation continue quand on est danseur et chorégraphe?
Danseur, ça n'arrête jamais. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête parce que le physique commence à lâcher.
On y arrive.
Ça, c'est le... Mais c'est à chaque fois, en plus, c'est un spectacle vivant. Ce n'est pas un tchac, le film. Après, ça, c'est bon, mais nous, c'est vraiment, c'est tout le temps le spectacle vivant. Donc... il faut toujours améliorer des choses qu'il faut toujours, même aussi des conditions physiques qu'on a aussi. On a des problèmes parfois, même avec la fièvre, on danse tant qu'on arrive à bouger, quoi.
Vous m'avez dit, pour préparer cette interview, qu'un danseur est averti que sa carrière, comme pour tout sportif, a une durée limitée. Le corps vieillit, vous l'avez dit. Aviez-vous envisagé la suite professionnelle possible avant de ne plus pouvoir danser à un haut niveau?
Alors, sur le moment, je n'avais pas du tout pensé quand j'ai eu un accident. Parce que malheureusement, je me suis coupé le tendon d'Achille en plein spectacle. C'est à l'atterrissage des sauts. En général, c'est classique pour les messieurs. C'est où les pieds ou les genoux ou les hanches. Ça, c'est des choses qu'on ne pense pas. Parce que on pense pouvoir quand même danser jusqu'à 40 ans. Ça peut, on commence à avoir des problèmes à 40 ans. Mais là, c'est, en général, c'est à 30 ans qu'on commence à avoir des accidents graves, souvent. Et que ça peut... on peut continuer, mais... ça dépend des accidents qu'on a, quoi.
Accident grave, c'est-à-dire, il y a le tendon.
Aussi l'usure des fémurs, des genoux, le cartilage. C'est des choses qu'à un moment donné, c'est fatal, qu'on ne peut plus être élastique comme avant, quoi. On n'arrive pas à avoir le même contrôle.
Donc c'est le réel qui vous a fait, c'est-à-dire l'accident qui vous a fait prendre une décision. Avant l'enregistrement de votre fil du fer, j'ai entendu un homme qui n'a jamais laissé entendre de frustration. À la suite de l'accident dont vous venez de parler, durant un spectacle, vous avez été donc obligé de passer de danseur et chorégraphe à régisseur pour l'opéra, de passer de la scène à la coulisse. Cette absence de frustration est-elle due au fait que vous avez continué à travailler dans le monde artistique qui vous a vu vous épanouir professionnellement et probablement humainement.
C'est... là, il y a une chose, c'est que en étant sur le plateau, on regarde quand même tout ce qui se passe dans les coulisses aussi. Donc c'est ça qui m'a un peu permis de voir entre être répétiteur, parce que je vois les répétiteurs, comment ils font aussi avec mes collègues, et aussi le chorégraphe, comment il fait aussi. J'ai différents chorégraphes. Et j'ai vu aussi le montage avant de commencer, les répétitions, tout ça. Ça m'a toujours intrigué, côté mécanique du plateau. Et ça, ça m'a jamais été seulement borné à seulement lever mes jambes, mais c'est plutôt de regarder un peu le tout, l'ensemble, ce qui est important. Et c'est là que j'ai, quand il y a eu l'accident, j'ai dû, au moment où je suis tombé, j'ai fait l'atterrissage bien, mais après ça s'est clic, j'ai entendu vraiment que ça a sauté. Et de là, je pouvais plus. Heureusement, j'avais fini ma variation. Et de là, j'ai dû aller en coulisses et j'étais par terre, quoi. Je pouvais pas, du pied ne marchait plus. Mais de là, j'ai dit, ah, ça y est, c'est fini. Parce que je savais qu'en général, les danseurs ont des accidents à partir de 30 ans, ils ont des accidents assez graves. Et ça, j'avais juste 35 ans. Et voilà. Et ça m'est arrivé ça. Et j'ai dit, bon, bah, il faudra passer à autre chose. Et de là, donc, j'ai commencé à faire l'assistant, aussi le maître de ballet, et après donner des cours aussi. Et puis, à un moment donné, j'étais comme maître de ballet assistant au chorégraphe aux Arènes de Vérone, où ça travaille toute la saison, mais aussi en été. Où il y a... Donc, il y avait M. Cotelier, le côté opéra, parce qu'il y avait aussi... Le corps de ballet devait faire aussi danser dans des opéras. Il y a toujours plein de petits trucs qu'il y a à faire. Parfois, c'est vraiment ingrat, mais parfois, c'est bien aussi. Et donc, c'est là que j'ai commencé un peu à m'intéresser aussi à tout ce qui faisait les régisseurs, les figurants, toutes ces personnes qu'il y avait dans l'opéra, quoi.
C'est le moment de la pause musicale. Torao, vous avez choisi de faire entendre un morceau du groupe japonais que je ne connaissais pas et que je découvre, merci, et qui s'appelle Mondo Grosso. Je vous laisse en dire le titre et le traduire, si c'est possible.
Labyrinth, ce serait le labyrinthe.
Et pourquoi ce choix ?
Parce que quand j'étais ado à Tokyo, c'était comme ça. Même si bon, l'image, c'était à Hong Kong, mais sur le vidéoclip, mais c'est... Voilà, c'est... Je me balais dans Tokyo partout quand j'étais ado.
Alors, balandons-nous dans Tokyo. Vous écoutez Le Fil du Fer de Taoro Suzuki, régisseur à l'Opéra et Orchestre National de Montpellier. En quoi consiste le métier de régisseur, Taoro ?
Alors, régisseur opéra, parce qu'il y a régie aussi de cinéma, de théâtre, et aussi des régisseurs d'une théâtre aussi qui accueille différents disciplines. Et bon, moi, je suis plus spécialisé pour l'opéra, mais quand même, l'opéra comédie ici, comme c'est aussi à la métropole, donc il faut aussi accueillir plein de choses, de festivals, de conférences, des événements, et c'est, voilà, c'est complexe. Mais le régisseur, donc, il doit surtout toper. Moi, pour toper, ce n'est pas le time code seulement, mais c'est vraiment avec la musique. Donc, il faut savoir lire la musique et aussi à vue. Donc, connaître aussi un peu le sens du spectacle.
Et qu'est-ce que c'est que toper ? Pardon, je vous interromps.
Alors, toper, c'est donner quand on doit faire fonctionner un décor qui doit partir, changer d'effet de lumière. Donc, on doit toujours dire attention. En général, on dit attention pour l'effet tot et le mouvement tot et le micro au niveau 15, c'est top. Et c'est là que ça part. Et tous mes collègues, ils sont à l'écoute au casque et ils envoient leur effet avec les boutons et tout le mécanisme, que ce soit pour le son, la lumière et machinerie. Et avant, le régisseur, donc moi, comme j'étais aussi à Florence, le régisseur là-bas, c'était un des inventeurs de la radio, on peut dire, mais il avait mis au théâtre de la Pergola ces tubes comme dans le bateau, qu'on parle, on enlève le bouchon, on parle au cintrier en haut et en bas aussi. Et voilà, pour donner le top. On a l'intercom maintenant. Mais voilà, ça, c'est le régisseur qui doit donner le top. En plus de suivre la répétition avant et puis faire tous les plannings qu'il y a autour.
Les plannings, c'est-à-dire,
alors, planning,
pour un exemple par rapport à un...
Par exemple, si aujourd'hui on a finalement, théoriquement, on a repris la salle Beracasa au Corum, donc j'ai dû modifier tous la répétition de l'orchestre au Corum, et après ici il y a tous les accueils différents de Montpellier Danse qui est en ce moment là, et puis sinon il y a les chœurs qui répètent ici, il y a des solistes qui doivent répéter ici, des musiciens qui doivent répéter là-bas et aussi ici, parce qu'il y a aussi avec le chef de chant qui doivent travailler, enfin, toutes ces choses-là qu'il faut dire. En plus de trouver aussi le timing pour préparer. Donc ça veut dire que ce soit pour le ménage, parce qu'il faut que ça soit propre et il faut qu'ils aient le temps de faire aussi. Et ça, on ne pense pas, mais on nous ajoute souvent, et ça c'est bon, mais ça, c'est la direction qui dit on fait ça, 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 ok, mais parfois on a tellement peu de temps, donc il faut vraiment synchroniser tout ça et ce n'est pas évident, mais bon. On arrive.
Pour un jeune ou une jeune camerée qui vous écoute et qui dit « Ah, ce métier de régisseur m'intéresse », quelles compétences faut-il avoir pour être un régisseur apprécié ?
Alors d'abord, en première chose, je dis « Tu veux vraiment faire ce métier ?» Donc, non. Bon, il y a des régisseurs qui... Souvent, il y a des régisseurs qui, après, ils deviennent, comme les danseurs, qui deviennent chorégraphes ou bien maîtres de ballet. Là, il y a aussi des régisseurs qui deviennent metteurs en scène. Et ça, voilà. Mais bon, en général, le régisseur s'occupe de ce que veut le metteur en scène ou le décorateur ou le light designer. Et aussi, parfois, il y a maintenant des vidéos, des sons liés aussi. Donc, toutes ces choses-là. Et... Il faut que tout ça soit en harmonie avec ce qu'il veut, mais aussi, si c'est faisable, à un moment donné, avec la technique, ça passe ou ça ne passe pas, ça peut arriver. Et donc, c'est là que je fais le méchant ou l'emmerdeur, pardon, entre parenthèses, mais je dis, en mettant en scène, bon, ben là, ça... Ou je deviens diplomatique et je dis, ah, mais si ça arrive, oui, là, ça risque de... Ah, mais ça va être comme ça, peut-être, mais là, ça va, il y a d'autres choses qui arrivent. Sinon, je dis, non, ça ne marche pas. Ça, c'est voilà, de savoir un peu dire à un moment donné que c'est pas possible. Il y a des choses aussi que c'est pas faisable. Il faut préparer en avant, après, des choses qui doivent arriver après. Donc, parfois, c'est pas facile. Donc, ça, c'est l'expérience. Il faut beaucoup d'expérience. Bien sûr, maintenant, il y a des formations. Mais pour le régisseur, ce qui est important de façon, de savoir lire la musique et voir plein de spectacles et de voir ce qui se passe en coulisses, avoir l'occasion d'être en coulisses de ce qui passe. Moi, je ne peux plus voir un spectacle avec tous les défauts. Je vois tout de suite, même assis en coulisses.
Donc, vous avez dit, vous venez de dire que vous êtes l'homme de la technique et qui dit au directeur de mise en scène, le metteur en scène, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes entendu? Ou est-ce qu'il y a parfois un ego de création qui vous dit « Ah non, là, je veux ça absolument ».
Alors, comme j'ai l'expérience en étant danseur aussi, souvent, parfois, il y a le chorégraphe qui dit « Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, d'accord ?» La soliste, la prima ballerina, qui est insupportable, qui dit « Il faut faire comme ça, comme ça ». J'ai dit « Ah bon, on l'avait répété jusqu'à maintenant comme ça ». C'était un pas de quatre, donc trois danseurs et la prima ballerina. Il fallait faire les lifts et tout ça. À un moment donné, je dis « Tu veux que ça soit comme ça ? Ok, ta-ta-ta, bam ! Et tombe par terre !» Elle me regarde, j'ai dit « Oui, j'ai fait comme tu m'as dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà !» Et voilà, donc après, il a compris que bon, il faut qu'il écoute aussi. Bon, je ne lui ai pas fait mal, hein, on a retenu aussi quand même, mais bon, c'est des choses... Donc c'est la même chose aussi au mettant en scène, à un moment donné, bon, le décor crache ou bien... la personne, le cœur ou la masse de cœur qui rentre à ce moment-là, il n'y a pas le temps de changement ou des choses, donc ça ne passe pas. Et je fais faire, et puis après, ça ne passe pas.
Avec votre exemple, il semblerait qu'il n'ait pas besoin d'avoir 20 ans pour se lancer dans votre métier de régisseur. Qu'est-ce qui fait qu'un régisseur trouve du travail à 35, 36 ans ?
C'est... Alors, il y a une chose, c'est que... c'est de se faire entendre. C'est ça, comme tout à l'heure je disais. Donc c'est de... Parce que parfois, il faut qu'ils écoutent aussi ce qu'on leur conseille, parce que ça peut marcher ou pas. Et donc ça, c'est plutôt en allant dans l'âge qu'on a plus de... on impose un peu plus, on peut, parce qu'il y a l'expérience. Mais au début, c'est dur. Il faut aller donc chercher le travail, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'opéras où il y a l'opéra. Et des maisons, disons qu'il y a des opéras. Donc, voilà.
Et une journée donc, de régisseur à l'opéra de Montpellier, qu'est-ce que c'est? Une ou deux journées, un moment où ça y est, il y a le feu, et on prépare, on se lance jusqu'à la production. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, bon, théoriquement, on doit travailler sur 35 heures la semaine. Mais bon, la journée, ça peut être parfois de 8 heures du matin jusqu'à minuit. Et puis nous, bien sûr, c'est au moment de la pause que le metteur en scène ou enfin là, ils disent « on change ça, on change ça ». Et donc pendant qu'on mange, donc j'ai pas de pause, je mange en travaillant, on envoie des indicatifs de ce que le metteur en scène à tous les services pour que, voilà, qu'à la reprise de répétition, après une heure ou après deux heures, il faut que ça soit fait. Donc parfois c'est assez... il n'y a pas de temps quoi, de se reposer et puis il faut y aller quoi.
C'est-à-dire que vous travaillez en direct, c'est-à-dire qu'au moment de la mise en scène, ou est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises par le metteur en scène et ensuite qui sont acceptées par vous en tant que comme de technique, ou bien est-ce qu'il y a des réunions auparavant? Comment ça se passe la création ici?
Alors, bien sûr, il y a des réunions, bien sûr, en amont, il y a les dépôts de maquettes. Après, il y a la conception à faire, et puis après.
Vous êtes toutes ces étapes. On commence
la répétition. On fait toujours, on essaye d'être présent pour ça. Et puis, le problème, c'est que sur le moment, par rapport à ce qu'on dit au début, ce qu'on fait au début et à la fin sur scène, c'est toujours différent de façon. Et plus ça va, plus le temps se presse, il n'y a plus de temps. Donc, tout est. Voilà, c'est surtout jusqu'à la General Piano. C'est la General Piano, le terme, c'est de faire tout. Tout l'œuvre avec les costumes, tout le décor, hein, mais sans l'orchestre, parce que ça coûte cher de répéter, parce que l'orchestre, ils ont aussi des concerts à faire ailleurs, et il faut que, voilà. Mais c'est jusqu'à ce moment-là que C'est juste la veille du général Piano, à 4 heures du matin, il y a le metteur en scène qui envoie un texto en disant oui, ça, ça, ça. Bon, le lendemain matin, donc ça veut dire que la nuit, il faut que j'envoie les mails, et puis après, on change, quoi. Et puis après ça, sur la journée aussi, il y a toujours des changements. Et ça, il faut le faire presque en direct, pendant les tops des répétitions, même en général piano. Et on me dit par le casque, pendant que je donne les tops, on me couvre ma voix pour donner les tops, en disant ça, il faut changer. Et voilà, il faut essayer d'être tranquille. Mais bon, parfois, je dis, bon, si vous voulez, vous faites vous le top, mais sinon, je ne donne plus le top, parce que ça sert à rien.
Et combien de temps est-ce que dure une pré-production ?
Là, c'est la direction qui décide quoi, tout ça, mais en général, c'est 2-3 ans avant, ça doit être déjà, ils doivent savoir. Puis après, c'est à la production de faire tout ce qu'il faut nécessaire, mais après c'est la régie qui reçoit toutes les infos et après le planning. Donc le planning aussi de voir, et c'est là que si la direction dit il faut faire ça, 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 puis en même temps il y a aussi des accueils à faire, donc on démonte pendant l'après-midi pour faire un accueil le soir, puis après on remonte la nuit pour remonter le lendemain matin qu'on puisse faire la conduite lumière, puis après la répétition. Donc c'est des choses qui est difficile de programmer. Ce qui peut se passer tout le temps, ça peut changer toujours, même un mois avant. On nous ajoute des choses, quoi.
L'art vivant, voilà. Vivant, vivant. La vie.
Oui.
Faire danseur et plus tard faire régisseur demande-t-il au corps et à l'esprit les mêmes efforts pour être efficace, par exemple, dans ces deux rôles de votre parcours professionnel ?
Il faut avoir le sang-froid. Quoi que ce soit qui arrive, parce que ça peut arriver, j'appelle pas un accident, mais des choses qui coincent pendant le spectacle, que ce soit comme danseur ou comme régisseur, ça peut arriver. Et il faut savoir résoudre sur le moment. Donc, rattraper, on sait le spectacle, le déroulement, donc on peut parfois rattraper. Parfois, c'est un peu difficile, mais bon, il faut faire.
Et vos plus beaux souvenirs, quels sont-ils professionnellement parlant ?
Quand il y a eu des accidents comme ça,
des accidents. Non,
de belles choses. De belles choses, c'est toujours. Ça peut être. Quand je faisais les tournées avec la compagnie du XXe siècle, c'était les différents lieux, théâtres. Et chaque théâtre, que ce soit même à l'Acropolis d'Athènes ou bien. À Arles, aux arènes où j'avais dansé, ou à Syracuse, c'est toujours magique parce qu'il y a aussi la nature autour, et c'est voilà. Et la nuit, on danse et tout ça, mais il y a aussi des oiseaux parce qu'il y a la lumière, donc ils sont un peu réveillés, mais qui passent, ou enfin des choses comme ça. Et c'est un peu magique parfois. Ça tombe juste le moment bien, quoi. Voilà, quand il y a un adage et puis on entend ça.
C'est-à-dire, est-ce que vous préférez l'événement en extérieur ou bien alors l'illusion dans du décor, dans de la scène?
Non, de la scène aussi. Ça, c'est... Et ce qui est incroyable, c'est que ça peut être comme danseur ou comme régisseur, c'est que même en étant en coulisses, on sent que quand tout est parfait, en harmonie, que l'orchestre joue vraiment en manière incroyable, que le chanteur aussi chante. Et puis le spectacle qui passe un moment, et on n'entend plus un bruit. Ça, c'est des choses magiques. Ça arrive parfois, et c'est ça qui, comme on dit, ça fait des frissons. Et ça, c'est ce qui est vraiment formidable, quoi.
Un homme de passion ? Est-ce que vous êtes un homme de passion ? Ou est-ce que comment vous est arrivée la passion ? C'est en faisant, en travaillant ? Ou alors c'est dès le début vous étiez...
Quand je regarde les spectacles, ça peut être aussi même... théâtre traditionnel japonais ou bien aussi d'autres comme la Comédie Française quand ils étaient venus à Tokyo, tout ça que je vois et que ça, c'est incroyable, c'est ça qui m'attire.
Qu'est-ce qui dans votre parcours et vos rencontres professionnelles ont fait de vous l'individu que vous êtes aujourd'hui, Torao?
Alors c'est Ce qui est important, c'est de ne pas, enfin, pour le côté professionnel, c'est de ne pas être présent, c'est qu'on remarque. Il faut pas être, on ne doit pas remarquer. Que ce soit pour quand j'étais danseur aussi, et aussi quand régisseur, il ne faut pas qu'on nous voie. Le public ne doit pas nous voir. Le public doit nous voir le mouvement, mais quand c'est encore de ballet, il faut que tout le monde soit en. Il n'y a pas un qui commence à lever la jambe plus haut ou en retard ou des choses comme ça. Donc il y a ce côté, cette discipline aussi au Japon. Il y a cette discipline, je me rappelle, qu'il fallait tout le temps... Parce que j'étais aussi à la maternelle japonaise, puis après la maternelle française, c'était deux mondes différents. Mais il y avait la discipline. Et donc la discipline, c'était de ne pas gêner les gens, on peut dire. Donc pour moi, c'est ça. Bon, malheureusement, le spectacle, il faut que ça, parfois... On doit mettre des ceintures de sécurité pour le public. Ils doivent être aussi un peu choqués. Mais... voilà. Donc, non, c'est d'être en harmonie avec le spectacle.
Vous venez d'écouter Le fil du fer de Torao Suzuki. Merci. Et merci à William, Adrien, Alix pour la technique. Merci à l'Opéra et Orchestre National de Montpellier pour l'accueil. We'll be right back.